Chapitre 3. Après le déjeuner, nous retournâmes à Ménil-Tiltas. Là, ayant trouvé le docteur Fröber seul, je lui dis que je croyais le comte malade, qu'il avait des rêves affreux, qu'il était peut-être somnambule et qu'il pouvait être dangereux dans cet état. Je me suis aperçu de tout cela, me dit le médecin. Avec une organisation athlétique, il est nerveux comme une jolie femme. Peut-être tient-il cela de sa mère. Elle a été diablement méchante ce matin. Je ne crois pas beaucoup aux histoires de peur et d'envie de femmes grosses, mais ce qui est certain, c'est que la comtesse est maniaque et la manie est transmissible par le sang. Mais le comte reprit, j'ai parfaitement raisonnable. Il a l'esprit juste, il est instruit, beaucoup plus que je ne l'aurais cru, je vous l'avoue. Il aime la lecture. D'accord, d'accord, mon cher monsieur, mais il est souvent bizarre. Il s'enferme quelquefois pendant plusieurs jours, souvent il rôde la nuit. Il lit des livres incroyables, de la métaphysique allemande, de la physiologie, que sais-je. Hier encore, il lui est arrivé un ballot de Leipzig. Faut-il parler net? Un Hercule a besoin d'une ébée. Il y a ici des paysannes très jolies. Le samedi soir après le bain, on les prendrait pour des princesses. Il n'y en a pas une qui ne fût fière de distraire Monseigneur. À son âge, moi, le diable m'emporte. Non, il n'a pas de maîtresse, il ne se marie pas. Il a tort. Il lui faudrait un dérivatif. Le matérialisme grossier du docteur me choquait au dernier point. Je terminai brusquement l'entretien en lui disant que je faisais des vœux pour que le comte Chebiot trouvât une épouse digne de lui. Ce n'est pas sans surprise, je l'avoue, que j'avais appris du docteur ce goût du comte pour les études philosophiques. Cet officier de hussards, ce chasseur passionné lisant de la métaphysique allemande et s'occupant de physiologie, cela renversait mes idées. Le docteur avait dit vrai, cependant, et dès le jour même, j'en eus la preuve. Comment expliquez-vous, monsieur le professeur, me dit-il brusquement vers la fin du dîner, comment expliquez-vous la dualité ou la duplicité de notre nature? Et comme il s'aperçut que je ne le comprenais pas parfaitement, il reprit. Ne vous êtes-vous déjà trouvé au haut d'un tout ou bien au bord d'un précipice, ayant à la fois la tentation de vous élancer dans le vide et un sentiment de terreur absolument contraire? Cela peut s'expliquer par des causes toutes physiques, dit le docteur. Premièrement, la fatigue qu'on éprouve après une marche ascensionnelle détermine un afflux de sang au cerveau qui... Oh, laissons là le sang, docteur, s'écria le comte avec impatience. Et prenons un autre exemple. Vous tenez une arme à feu chargée. Votre meilleur ami est là. L'idée vous vient de lui mettre une balle dans la tête. Vous avez la plus grande horreur d'un assassinat, et pourtant vous en avez la pensée. Je crois, messieurs, que si toutes les pensées que nous viennent en tête dans l'espace d'une heure... je crois que si toutes vos pensées, monsieur le professeur, que je tiens pour un sage, étaient écrites, elles formeraient un volume in folio, peut-être d'après lequel il n'y a pas un avocat qui ne plaida avec succès votre interdiction, pas un juge qui ne vous mit en prison ou bien dans une maison de fous. Ce juge, monsieur le comte, ne me condamnerait-il pas assurément pour avoir cherché ce matin, pendant plus d'une heure, la loi mystérieuse, d'après laquelle les verbes slaves prennent un sens futur en se combinant avec une préposition? Mais si par hasard j'avais eu quelque autre pensée, quelle preuve en tirer contre moi? Je ne suis pas plus maître de mes pensées que des accidents extérieurs qui me les suggèrent. De ce qu'une pensée surgit en moi, on ne peut pas conclure un commencement d'exécution, ni même une résolution. Jamais je n'ai eu l'idée de tuer personne. Mais si la pensée d'un meurtre me venait, ma raison n'est-elle pas là pour l'écarter ? Vous parlez de la raison bien à votre aise. Mais est-elle toujours là, comme vous dites, pour nous diriger ? Pour que la raison parle et se fasse obéir, il faut de la réflexion, c'est-à-dire du temps et du sang-froid. A-t-on toujours l'un et l'autre ? Dans un combat, je vois arriver sur moi un boulet qui ricoche. Je me détourne et je découvre mon ami pour lequel j'aurais donné ma vie si j'avais eu le temps de réfléchir. J'essayais de lui parler de nos devoirs d'homme et de chrétien, de la nécessité où nous sommes d'imiter le guerrier de l'Écriture, toujours prêt au combat. Enfin, je lui fis voir qu'en luttant sans cesse contre nos passions, nous acquérions des forces nouvelles pour les affaiblir et les dominer. Bon, je ne réussis, je le crains, qu'à le réduire au silence, et il ne paraissait pas convaincu. Je demeurai encore une dizaine de jours au château. Je fis une autre visite à Downhill, mais nous n'y couchâmes point. Comme la première fois, Mademoiselle Uvinska se montra espiègle et enfant gâté. Elle exerçait sur le comte une sorte de fascination, et je ne doutais pas qu'il n'en fût fort amoureux. Cependant, il connaissait bien ses défauts et ne se faisait pas d'illusions. Il la savait, coquette, frivole, indifférente à tout ce qui n'était pas pour elle un amusement. Souvent, je m'apercevais qu'il souffrait intérieurement de la savoir si peu raisonnable. Mais dès qu'elle lui avait fait quelques petites mignardises, il oubliait tout, sa figure s'illuminait, il rayonnait de joie. Il voulut m'emmener une dernière fois à Dowielly la veille de mon départ, peut-être parce que je restais à causer avec la tante pendant qu'il allait se promener au jardin avec la nièce, mais j'avais fort à travailler et je dus m'excuser quelle que fût son insistance. Il revint dîner, bien qu'il nous eût dit de ne pas l'attendre. Il se mit à table et ne put manger. Pendant tout le repas, il fut sombre et de mauvaise humeur. De temps à autre, ses sourcils se rapprochaient et ses yeux prenaient une expression sinistre. Lorsque le docteur sortit pour se rendre compte, pour se rendre auprès de la comtesse, le comte me suivit dans ma chambre et me dit tout ce qu'il avait sur le cœur. « Je me repens bien, s'écria-t-il, de vous avoir quitté pour aller voir cette petite folle qui se moque de moi et qui n'aime que les nouveaux visages. Mais heureusement, tout est fini entre nous. J'en suis profondément dégoûté et je ne la reverrai jamais. » Il se promena quelque temps de long en large, selon son habitude, puis il reprit. « Vous avez cru peut-être que j'en étais amoureux. » C'est ce que pense cet imbécile de docteur. Non, je ne l'ai jamais aimé. Sa mine rieuse m'amusait. Sa peau blanche me faisait plaisir à voir. Voilà tout ce qu'il y a de bon chez elle, la peau surtout. De cervelle, point. Jamais je n'ai vu en elle autre chose qu'une jolie poupée, bonne à regarder quand on s'ennuie et qu'on n'a pas de livre nouveau. Sans doute, on peut dire que c'est une beauté. Sa beauté est merveilleuse. Monsieur le professeur, le sang qui est sous cette peau doit être meilleur que celui d'un cheval, qu'en pensez-vous ? Il se mit à éclater de rire, mais ce rire faisait mal à entendre. Je pris congé de lui le lendemain pour continuer mes explorations dans le nord du Palatinat. Elles durèrent environ 2 mois, et je puis dire qu'il n'y a guère de village de Samogitie où je ne sois arrêté et où je n'ai recueilli quelques documents. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour remercier les habitants de cette province, et en particulier messieurs les ecclésiastiques, pour le concours vraiment empressé qu'ils ont accordé à mes recherches et les excellentes contributions dont ils ont enrichi mon dictionnaire. Après un séjour d'une semaine à Swanley, je me proposais d'aller m'embarquer à Klaipeda, port que nous appelons Memel, pour retourner chez moi, lorsque je reçus du corps de Semyot la lettre suivante apportée par un de ses chasseurs. « Monsieur le professeur, permettez-moi de vous écrire en allemand. Je ferais encore plus de solécisme si je vous écrivais en jmoud et vous perdriez toute considération pour moi. Je ne sais si vous en avez déjà beaucoup, et la nouvelle que j'ai à vous communiquer ne l'augmentera peut-être pas. Sans plus de préface, je me marie, et vous devinez bien à qui. Jupiter se rit des serments des amoureux. Ainsi fait Pirkuns, notre Jupiter samogitien. C'est donc mademoiselle Julienne Ivinska que j'épouse le 8 du mois prochain. Vous seriez le plus aimable des hommes si vous veniez assister à la cérémonie. Tous les paysans de Medintildas et lieux circonvoisins viendront chez moi manger quelques bœufs et d'innombrables cochons. Et quand ils seront ivres, ils danseront dans ce pré à droite de l'avenue que vous connaissez. Vous verrez des costumes dignes de notre observation. Vous me ferez le plus grand plaisir, et à Julienne aussi. J'ajouterai que votre refus nous jetterait dans le plus triste embarras. Vous savez que j'appartiens à la communion évangélique, de même que ma fiancée. Or, notre ministre, qui demeure à une trentaine de lieues, est perclus de la goutte, et j'ai osé espérer que vous voudriez bien officier à sa place. Croyez-moi, mon cher professeur, votre bien dévoué, Michel Zemiot. Au bas de la lettre, en forme de post-scriptum, une assez jolie main féminine avait ajouté en jmoud. Moi, muse de la Lituanie, j'écris en jmoud. Michel est un impertinent de douter de votre approbation. Il n'y a que moi, en effet, qui soit assez folle pour vouloir d'un garçon comme lui. Vous verrez, monsieur le professeur, le 8 du mois prochain, une mariée un peu chic. Ce n'est pas du jmoud, c'est du français. N'allez pas au moins avoir des distractions pendant la cérémonie. Ni la lettre ni le post-scriptum ne me plurent. Je trouvais que les fiancés montraient une impardonnable légèreté dans une occasion si solennelle. Cependant, le moyen de refuser... J'avouerai encore que le spectacle annoncé ne laissait pas de me donner des tentations. Selon toute apparence, dans le grand nombre de gentilshommes qui se réunirait au château de Medintiklas, je ne manquerai pas de trouver des personnes instruites qui me fourniraient des renseignements utiles. Mon glossaire jmoud était très riche, mais le solde, un certain nombre de mots appris de la bouche de paysans grossiers, demeurait encore pour moi enveloppé d'une obscurité relative. Toutes ces considérations réunies eurent assez de force pour m'obliger à consentir à la demande du comte, et je lui répondis que dans la matinée du 8, je serais à Medintiklas. Combien j'eus lieu de m'en repentir. En entrant dans l'avenue du château, j'aperçus un grand nombre de dames et de messieurs en toilette du matin, groupés sur le perron ou circulant dans les allées du parc. La cour était pleine de paysans endimanchés. Le château avait un air de fête. Partout des fleurs, des guirlandes, des drapeaux et des festons. L'intendant me conduisit à la chambre qui m'avait été préparée au rez-de-chaussée, en me demandant pardon de ne pouvoir m'en offrir une plus belle. Mais il y avait tant de monde au château qu'il avait été impossible de me conserver l'appartement que j'avais occupé à mon premier séjour et qui est destiné à la femme du maréchal de la noblesse. Ma nouvelle chambre, d'ailleurs, était très convenable, ayant vue sur le parc et au-dessous de l'appartement du comte. Je m'habillai en hâte pour la cérémonie, je revêtis ma robe, mais ni le comte ni sa fiancée ne paraissaient. Le comte était allé la chercher à Neuilly. Depuis longtemps, ils auraient dû être arrivés. Mais la toilette d'une mariée n'est pas une petite affaire, et le docteur avertissait les invités que le déjeuner ne devait avoir lieu qu'après le service religieux. Les appétits trop impatients feraient bien de prendre leurs précautions à un certain buffet garni de gâteaux et de toutes sortes de liqueurs. Je remarquai à cette occasion combien l'attente excite à la médisance. Deux mères de jolies demoiselles invitées à la fête ne tarissaient pas en épigrammes contre la mariée. Il était plus de midi quand une salve de boîtes et de coups de fusil signala son arrivée, et bientôt après, une calèche de gala entre dans l'avenue traînée par quatre chevaux magnifiques. À l'écume qui couvrait leur poitrail, il était facile de voir que le retard n'était pas de leur fait. Il n'y avait dans la calèche que la mariée, Madame de Guillelot et le comte. Il descendit et donna la main à Madame de Guillelot. Mademoiselle Ivinska, par un mouvement plein de grâce et de coquetterie enfantine, fit mine de vouloir se cacher sous son châle pour échapper aux regards curieux qui l'entouraient de tous les côtés. Pourtant, elle se leva debout dans la calèche et elle allait prendre la main du comte quand les chevaux du brancard, effrayés peut-être de la pluie de fleurs que les paysans lançaient à la mariée, peut-être aussi éprouvant cette étrange terreur que le consmédiote inspirait aux animaux, se cabrèrent en s'ébrouant. Une roue heurta la borne au pied du perron, et on put croire pendant un moment qu'un accident allait avoir lieu. Mademoiselle Ivinska laissa échapper un petit cri. On fut bientôt rassuré. Le comte, la saisissant dans ses bras, l'emporta jusqu'au haut du perron aussi facilement que s'il avait tenu qu'une colombe. Nous applaudissions tous à son adresse et à sa galanterie chevaleresque. Les paysans poussaient des vivats formidables. La mariée, toute rouge, riait et tremblait à la fois. Le comte, qui n'était nullement pressé de se débarrasser de son charme en fardeau, semblait triompher en la montrant à la foule qui l'entourait. Tout à coup, une femme de haute taille, pâle, maigre, les vêtements en désordre, les cheveux épars et tous les traits contractés par la terreur, parut au haut du perron sans que personne pût savoir d'où elle venait. « À l'ours » criait-elle d'une voix aiguë. « À l'ours ! Des fusils ! Il emporte une femme ! Tuez-le ! Feu ! Feu !» C'était la comtesse. L'arrivée de la mariée avait attiré tout le monde au perron, dans la cour ou aux fenêtres du château. Les femmes mêmes qui surveillaient la pauvre folle avaient oublié leurs consignes. Elle s'était échappée et sans être observée de personne, était arrivée jusqu'au milieu de nous. Ce fut une scène très pénible. Il fallut l'emporter malgré ses cris et sa résistance. Beaucoup d'invités ne connaissaient pas sa maladie. On dut leur donner des explications. On chuchota longtemps à voix basse. Tous les visages étaient attristés. Mauvais présage, disaient les personnes superstitieuses. Et le nombre en est grand en Lituanie. Cependant, Mademoiselle Ivinska demanda 5 minutes pour faire sa toilette et mettre son voile de mariée, opération qui dura une bonne heure. C'était plus qu'il ne fallait pour que les personnes qui ignoraient la maladie de la comtesse en apprissent la cause et les détails. Enfin, la mariée reparut, magnifiquement parée et couverte de diamants. Sa tante la présenta à tous les invités, et lorsque le moment fut venu de passer à la chapelle, à ma grande surprise, en présence de toute la compagnie, Madame de Mugliello appliqua un soufflet sur la joue de sa nièce, assez fort pour faire retourner ce qui aurait eu quelques distractions. Ce soufflet fut reçu avec la plus parfaite résignation, et personne ne parut s'en étonner. Seulement, un homme en noir écrivit quelque chose sur un papier qu'il avait apporté, et quelques-uns des assistants y apposèrent leur signature de l'air le plus indifférent. Ce ne fut qu'à la fin de la cérémonie que j'eus le mot de l'énigme. Si je l'eusse deviné, je n'aurais pas manqué de m'élever avec toute la force de mon ministère sacré contre cette odieuse pratique, laquelle a pour but d'établir un cas de divorce en simulant que le mariage n'a eu lieu que par suite de violences matérielles exercées contre une des parties contractantes. Après le service religieux, je crus de mon devoir d'adresser quelques paroles au jeune couple, m'attachant à leur mettre devant les yeux la gravité et la sainteté de l'engagement qui venait de les unir. Et comme j'avais encore sur le cœur le post-scriptum déplacé de Mademoiselle Ivinska, je lui rappelais qu'elle entrait dans une vie nouvelle, non plus accompagnée d'amusement et de joie juvénile, mais pleine de devoirs sérieux et de graves épreuves. Il me sembla que cette partie de mon allocution produisit beaucoup d'effet sur la mariée, comme sur toutes les personnes qui comprenaient l'allemand. Des salves d'armes à feu et des cris de joie accueillirent le cortège au sortir de la chapelle, puis on passa dans la salle à manger. Le repas était magnifique, les appétits fort aiguisés, et d'abord on entendit d'autres bruits que celui des couteaux et des fourchettes. Mais bientôt, avec l'aide des vins de Champagne et de Hongrie, on commença à causer, à rire et même à crier. La santé de la mariée fut portée avec enthousiasme. À peine venait-on de se rasseoir qu'un vieux panne à moustache blanche se leva et d'une voix formidable, « Je vois avec douleur, dit-il, que nos vieilles coutumes se perdent. Jamais nos pères n'eussent porté ce toast avec des verres de cristal. Nous buvions dans le soulier de la mariée et même dans sa botte, car de mon temps, les dames portaient des bottes en maroquin rouge. Montrons, amis, que nous sommes encore de vrais Lituaniens. Et toi, madame, daigne me donner ton soulier. » La mariée lui répondit en rougissant avec un petit rire étouffé. « Viens le prendre, monsieur, mais je ne te ferai pas raison dans ta botte. » Le panne ne se fit pas rire deux fois. Il se mit galamment à genoux, ôta un petit soulier de satin blanc à talons rouges, l'emplit de vin de champagne et but si vite et si adroitement qu'il n'y en eut pas plus de la moitié qui coula sur ses habits. Le soulier passa de main en main, et tous les hommes y burent, mais non sans peine. Le vieux gentilhomme réclama le soulier comme une relique précieuse, et Madame de Oyello fit prévenir une femme de chambre de venir réparer le désordre de la toilette de sa nièce. Ce toast fut suivi de beaucoup d'autres, et bientôt les convives devinrent si bruyants qu'il ne me parut plus convenable de demeurer parmi eux. Je m'échappai de la table sans que personne fît attention à moi, et j'allai respirer l'air en dehors du château. Mais là encore, je trouvai un spectacle peu édifiant. Les domestiques et les paysans, qui avaient eu de la bière et de l'eau-de-vie à discrétion, étaient déjà ivres pour la plupart. Il y avait eu des disputes et des têtes cassées. Ça et là, sur le pré, des ivrognes se vautraient, privés de sentiments, et l'aspect général de la fête tenait beaucoup d'un champ de bataille. J'aurais eu quelque curiosité de voir de près les danses populaires, mais la plupart étaient menées par des bohémiennes effrontées, et je ne crus pas qu'il fût bien séant de me hasarder dans cette bagarre. Je rentrai donc dans ma chambre, je lus quelque temps, puis me déshabillai et m'endormis aussitôt. Lorsque je m'éveillai, l'horloge du château sonnait 3 heures. La nuit était claire, bien que la lune fût un peu voilée par une légère brume. J'essayais de retrouver le sommeil. Je ne pus y parvenir. Selon mon usage en pareille occasion, je voulus prendre un livre et étudier, mais je ne pus trouver les allumettes à ma portée. Je me levai et j'allais tâtonnant dans ma chambre quand un corps opaque, très gros, passa devant ma fenêtre et tomba avec un bruit sourd dans le jardin. Ma première impression fut que c'était un homme et je crus qu'un de nos ivrognes était tombé par la fenêtre. J'ouvris la mienne et regardai. Je ne vis rien. J'allumai enfin une bougie, et m'étant remis au lit, je repassai mon glossaire jusqu'au moment où l'on m'apporta mon thé. Vers 11 heures, je me rendis au salon, où je trouvai beaucoup d'yeux battus et de mines défaites. J'appris en effet qu'on avait quitté la table fort tard. Ni le comte ni la jeune comtesse n'avait encore paru. À 11h30, après beaucoup de méchantes plaisanteries, on commença à murmurer, tout bas d'abord, bientôt assez haut. Le docteur Fröber prit sur lui d'envoyer le valet de chambre du comte frapper à la porte de son maître. Au bout d'un quart d'heure, cet homme redescendit et, un peu ému, rapporta au docteur Fröber qu'il avait frappé plus d'une douzaine de fois sans obtenir de réponse. Nous nous consultâmes, Madame d'Ogliello, le docteur et moi. L'inquiétude du valet de chambre m'avait gagné. Nous montâmes tous les trois avec lui. Devant la porte, nous trouvâmes la femme de chambre de la jeune comtesse tout effarée, assurant que quelque malheur devait être arrivé, car la fenêtre de madame était toute grande ouverte. Je me rappelais avec effroi ce corps pesant tombé devant ma fenêtre. Nous frappâmes un grand coup. Point de réponse. Enfin, le valet de chambre apporta une barre de fer et nous enfonçâmes la porte. Oh non, le courage me manque pour décrire le spectacle qui s'offrit à nos yeux. La jeune comtesse était étendue morte sur son lit, la figure horriblement lacérée, la gorge ouverte, inondée de sang. Le comte avait disparu et personne depuis n'a eu de ses nouvelles. Le docteur considéra l'horrible blessure de la jeune femme. « C'est pas une lame d'acier, s'écria-t-il, qui a fait cette plaie, c'est une morsure. » Le docteur ferma son livre et regarda le feu d'un air pensif. « Et l'histoire est finie ?» demanda Adélaïde. « Finie, oui, répondit le docteur d'une voix lugubre. « Mais, reprit-elle, pourquoi l'avez-vous intitulé Lochis ? Pas un seul des personnages ne s'appelle ainsi. »« Ce n'est pas un nom d'homme, dit le professeur. »« Voyons, Théodore, comprenez-vous ce que veut dire Lochis ? Parle-moi du monde. » Si vous vous étiez bien pénétré de la loi de transformation du sanskrit au lituanien, vous auriez reconnu dans Loki ce sanskrit Arksha ou Riksha. On appelle Loki en lituanien l'animal que les Grecs ont nommé Arctos Alpha accentué devant liquide Rho, Ki, Tau, Omicron, Sigma, les Latins Ursus et les Allemands Bor. Vous comprenez maintenant mon épigraphe, Mishka Sulukiu Abudutukiu. Vous savez que dans le roman du renard, l'ours s'appelle Dambrum, chez les Slaves on le nomme Michel, Mishka en lituanien, et cela remplace presque toujours le nom générique Lochis. C'est ainsi que les Français ont oublié leur mot néo-latin de Goupil ou Gorpil. Pour y substituer celui de renard. Oh, je vous en citerai bien d'autres exemples. Mais Adélaïde remarqua qu'il était tard, et on se sépara.